RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, la victoire a été difficile, arrachée par les Bleus hier soir à Lille pour leur deuxième match dans cette Coupe du Monde de rugby. Les Uruguayens ont fait déjouer les Français, ils s'inclinent finalement 27-12. Mais quelle bouillie de rugby à laquelle nous avons assisté hier soir, des Bleus indisciplinés, sans grande envie, ni grand talent, qui ont donc fait passer un drôle de sentiment, un drôle de frisson hier soir au stade Pierre Mauroy, réalisant au passage le plus mauvais match de l'ère Galtier. On va en discuter dans un instant avec Wilfried Templier, évidemment, et on va essayer de tirer les conséquences de cette rencontre, parce que évidemment il peut y avoir des conséquences, notamment de savoir si cette équipe et notamment ses remplaçants seront capables d'apporter un vrai plus à l'équipe de France dans les semaines qui viennent. Bonjour Monsieur Templier, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes remis de cette défaite? Non, c'est pas une défaite, c'est une victoire.
Ah, c'est une victoire quand même, 27-12, hein. Oui. 27-12, ouais, pas comme le premier match.
Magnifique,
oui. Non, bon, il y a beaucoup à redire, c'est vrai.
Alors ça fait des années maintenant que tu suis le 15 de France. Tu as connu les années vaches maigres, hein, puis tu as connu la lente montée en puissance vers les sommets.
De la flèche du temps.
Voilà, de la flèche du temps, le grand chelem, l'équipe de France,
oui, qui bat tout le monde.
Numéro un mondial ou quasiment, favorite pour la Coupe du Monde. Et là, hier soir, on a eu l'impression de revenir en arrière, de revenir quelques années plus tôt. Est-ce que tu as ce sentiment toi aussi ou...
Ouais, c'est décevant de la part des joueurs, parce que franchement, avant le match, on s'attendait à une première mi-temps difficile, accrochée, parce que bravo à l'Uruguay aussi, hein, dans un premier temps, bravo à cette équipe... On en reparlera peut-être, mais qui a un cadre de jeu, qui a des joueurs qui lâchent, qui n'ont rien lâché. Mais c'est décevant, parce qu'on pensait que jusqu'à la mi-temps, ça pouvait être tendu, mais qu'après, les Bleus feraient la différence, feraient craquer cette équipe. Moi, je pensais que ça faisait 30, 40 points. Bon, on n'est pas loin, mais 40 points plus que 27. Mais surtout... on n'a jamais enchaîné des choses. Il y a toujours une petite erreur, hein, quelque chose d'individuel. Un ballon arraché, un ballon tombé, un point écarté au lieu de dégager. Franchement, une des seules actions carrées qu'on a eues, c'est l'essai de Bielbiaré dans les 10 dernières minutes, en fait. On les a d'abord concassés, où ça a tapé, on a resserré la défense.
On a respecté les fondamentaux.
Et puis après, sur les extérieurs, ça s'est passé. Mais le reste, franchement... Et puis, le public de Lille était là pour ça. Il y a eu quelques sifflets. On avait les gens interrogés à la sortie. Ils étaient quand même très déçus parce qu'ils voulaient voir plus de l'équipe de France et on n'a pas vu ce qu'on voulait voir.
On se souvient des défaites encourageantes. Est-ce que là, on n'est pas dans un nouveau mode, les victoires un peu déprimantes du 15 de France?
Ouais, cette victoire déprimante encore.
Moi, franchement, j'étais un peu déprimé hier soir.
Non, parce qu'il y a des matchs comme ça de poules qui sont pas aboutis. Bon, c'est difficile. Fabien Galtier nous disait, on n'est pas là pour rendre une copie propre, il nous a dit.
Oui, bon, on va l'écouter dans un instant, justement.
Mais il y a des matchs qui sont pas aboutis, ça fait peut-être partie du truc. Mais ça nous laisse une petite incertitude, un petit point d'interrogation. Ça peut-être que ça fera rien et qu'on sera champion du monde, hein, mais ça peut aussi polluer des choses. Et puis sur les joueurs qui étaient là hier soir, il y a certains, on attendait pas mal et on n'a rien vu venir. Donc on se gratte un peu la tête en sortant de ce match. On verra les conséquences.
On rappelle quelques stats importantes. 15 pénalités sifflées à l'encontre des Bleus. Encore 2 essais, voire 3 essais encaissés hier soir. Où est la défense de fer de Sean Edwards qui nous a permis justement de remporter le Grand Chelem il y a un an et demi?
C'est ça le problème. On prend 2 à 3 essais par match depuis le mois d'août, en fait. Donc c'était le canevas de cette équipe de France. Hein. On avait la dépossession, mais au moins on avait une ligne défensive très très forte. Et là, on prend des brèches, on prend des essais. Et puis, on avait 4 pénalités contre les Blacks, c'était le record de cette équipe. C'est ça qui est incroyable. On a eu 12 changements, voilà, faut pas aller chercher plus loin peut-être. 15 pénalités, ça nous rappelait le premier match du tournoi en Italie, où il y avait eu 18 pénalités sifflées par Mathieu Carlet, et ça avait été énorme. Il y avait les consignes, c'était les premières consignes du tournoi. Hein. Mais quand même, face à l'Uruguay, on leur rend hommage, mais ça reste que la 17e. Alors, on va dire, oui, c'est pas que la 17e nation mondiale, ils ont éliminé les États-Unis, d'accord. Mais si on veut être champion du monde, il faut monter les standards, il faut monter les curseurs. Et on l'a pas fait ce jeudi soir, donc... Est-ce un avertissement sans frais? On le verra contre la Namibie, qui est peut-être moins forte que l'Uruguay, et puis on le verra pour la suite.
Évidemment, on va en parler de ces matchs qui arrivent pour les 15 de France. On va d'abord écouter Fabien Galtier, le sélectionneur, qui hier soir en conférence de presse est arrivé avec un petit sourire, est arrivé avec des éléments de langage, à la différence des joueurs qui, eux, ont été assez francs quand même. Hein, dans les interviews d'après-match, Fabien Galtier, lui, veut seulement rappeler la victoire de l'équipe de France, et on va l'écouter dans un instant, tout de suite même.
Bon, ce qui est important, c'est la victoire. Ce que je dis aux joueurs, gagnons le match. On n'est pas là pour faire des démonstrations, on n'est pas là pour rendre des copies propres, entre guillemets. Notre ambition, c'est gagner les matchs. Et donc, le premier objectif a été atteint. S'il y a de la frustration, elle est plus chez les joueurs, parce que nous, on a envie qu'ils s'amusent, on a envie qu'ils jouent, on a envie qu'ils soient heureux. Je pense qu'ils ont ramené le contrat à la maison, gagné, mais ils sont frustrés.
Ouais, c'est surtout les joueurs, il dit. Hein. Donc il dit.
Parce que lui, il est pas frustré.
Si, ouais, franchement,
il dit parce qu'il pense. On a ramené la victoire.
Il dit parce qu'il pense. On les voyait à la caméra avec Laurent Labitte en tribune, mais ce sont des techniciens avec l'œil serré quand même. Ils ont bien vu que la bouillie de rugby. Enfin, je veux dire, la vidéo, ça peut piquer. Hein. Donc bon, évidemment, il protège son groupe et tout. Ça fait partie du truc, un peu de politique. Là, blah, 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 blah. Mais j'ai rarement entendu un entraîneur nous dire on n'est pas là pour rendre une copie propre. Ou peut-être qu'il dit que c'est pas grave, c'est un point obligé, un passage obligé, peut-être collectivement. Mais on arrive au bout de 4 ans, le collectif, on retrouve moins le collectif d'équipe de France qu'à une certaine époque, en fait. Mais là, on n'est pas là pour rendre une copie propre.
Bon, ça fait quand même plusieurs fois, depuis le début de l'été, même pendant le tournoi, qu'il y a des petits signaux d'alarme qui m'inquiètent un peu quand même.
Même la première mi-temps contre les Blacks, hein, on les trouve imprécis, on ne sait pas trop où ils vont, ils retrouvent un peu le fil en deuxième mi-temps.
Début de match face à l'Australie, le match face à l'Écosse. Face à la Fidji, face aux Fidji, ça n'a pas non plus été.
Il n'y a pas un match
parfait du début à la fin. Bon, c'est rare dans un 15 de France, dans l'histoire du 15 de France. Hein.
Ça va peut-être venir. Oui. Mais ça nous laisse un peu dubitatif. Ouais.
Comment tu expliques, toi, ce non-match des Bleus ? Est-ce que c'est de la suffisance ? Est-ce qu'ils ont pris leur adversaire de haut ? C'est souvent arrivé par le passé. C'est aussi peut-être le soulagement la décompression et le soulagement après cette victoire face aux Blacks, qui évidemment était l'objectif principal sur lequel on se basait, lequel on parlait depuis des mois. Le manque d'esprit collectif aussi. Hein. Chacun voulait jouer sa carte personnelle, histoire de se faire remarquer aux yeux du sélectionneur pour la suite de la compétition.
Ils ne sont pas restés dans le cadre.
Ou alors le manque de talent de cette équipe bis. Parce qu'on nous disait, voilà, on a 33 joueurs à peu près d'égale valeur. Il y a ceux qui commencent, les finishers, mais tout le monde est du même niveau. Est-ce que tu as aussi ce sentiment que les 33 ne se valent pas ?
Le match d'hier soir a prouvé que non, pour l'instant. Certainement qu'on a des joueurs de talent, mais là, il y a certains qu'on n'a pas vus. Un Romain Taofifénois qui a failli avoir un rouge, qui a fait 4 mètres ballon en main, c'est très très peu. Et il disait qu'il était content d'être titulaire, alors qu'il est souvent finisseur, comme ils disent. Gabin Villière, on n'a pas le Gabin Villière stratosphérique de 2022, du Grand Chelem. Même les centres, Arthur Vincent a fait une très bonne rentrée la semaine dernière. Et là, avec Yoram Moefana, offensivement, ça manque de tranchant. Yoram Moefana a été très bon défenseur, celui qui avait fait le plus de plaquages. Mais ballon en main, voilà, c'est pas le feu derrière, on met pas le feu, quoi. Heureusement qu'on a on a eu un bon, très bon Sekou Makalou, Camorneau qui a fait son boulot, Louis Bielbiaré a bien fait ce qu'il avait à faire, on le disait hier, 4 plaquages réussis sur 4 tentés, il marque son essai. Est-ce qu'il peut concurrencer Gabin Villière? Je sais pas, il faut voir sur la suite du tournoi. Mais derrière, c'est trop fade. On a eu une équipe de France fade. Je pense qu'ils se sont fait surprendre aussi par le niveau, l'engagement des Uruguayens aussi.
On avait aussi l'interrogation concernant Jalibert et Astoy. Certains se demandaient au moment de la blessure de Ntamack si Jalibert était vraiment le 10 qu'il fallait ou si Astoy n'allait pas lui prendre la place. Il y a quand même une différence de niveau entre les deux. En tous les cas, sur les deux matchs qu'on vient de voir.
On dit que c'est une équipe B, entre guillemets. Lucu n'est pas Dupont, Astoy n'est pas Jalibert et Moefana n'est pas Danti, si on prend ces exemples-là. Mais on attend mieux face à la 17e nation mondiale de ces joueurs-là, et pour aussi amener de l'émulation et des sourires. Et là, on a deux matchs, deux victoires, on attend plus.
C'est des petites alarmes, des petits signaux rouges qui s'allument.
Et puis ils nous ont
habitués
à tellement de choses, équipe de France.
C'est qu'on n'est plus habitués.
Mais
plus
oui, habitués à ça. Grand Chelem, battre les Blacks, battre les Sud-Africains, le très haut niveau. Donc évidemment, quand on redescend de plusieurs camps, on s'inquiète.
Tu évoquais il y a quelques instants Maxime Lucu, donc, qui était hier soir le demi de mêlée de cette équipe de France. En lieu et place de Maître Dupont, Maxime Lucu, donc sur les explications de cette victoire peu probante de l'équipe de France hier soir.
Il y a de la frustration maintenant, c'est une victoire comme vous le dites. On savait qu'il y avait pas mal de changements, il y avait énormément de pression par rapport au match de la semaine dernière. 13 je crois changements sur l'équipe, donc forcément il fallait trouver les automatismes. On a eu une équipe d'Uruguay qui a joué crânement leur chance avec énormément de pression, notamment dans les phases de ruck. On savait que c'était une équipe qui jouait le moins possible au pied, donc ils allaient tenir le ballon, ils savent jouer. Je pense qu'on a eu du mal à défensivement et notamment sur la discipline qui a été le gros point noir à mettre notre jeu en place. mais en tout cas la première mi-temps a été bonne. Je pense que s'il y avait eu un peu plus de réalisme, le résultat aurait été différent, et notamment la deuxième mi-temps. Voilà, on s'est mis sous pression nous-mêmes. Force est de constater que le groupe a pas lâché dans des moments un petit peu compliqués où on était à 5 mètres de la ligne, et on a toujours gardé ces 8 points d'avance, et ça fait que derrière on est ressorti avec la victoire. On sait qu'on a énormément de pression chez nous, donc il fallait juste gagner aujourd'hui, et même si tout n'a pas été parfait, ça reste vraiment important, quoi.
Maxime qui nous dit, on a toujours eu 8 points d'avance, à un moment il n'y en avait plus qu'un.
Hein. Mais surtout, ils nous relancent terriblement. Quand ils reviennent à un point, ils se contrent entre eux et c'est l'essai de Movaca qui tombe du ciel.
Ouais.
S'il n'y avait pas eu ça, on reste à un point là, on aurait un petit peu serré des fesses.
Ah oui, 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 on commençait un peu à faire de l'huile quand même hier soir, Denis, toi et moi, dans ce stade Pierre Mauroy, qui est quand même resté derrière son équipe, même s'il y a eu quelques sifflets à la fin du match. Alors, les conséquences pour le staff de l'équipe de France. J'imagine que la séance de vidéo va quand même être musclé. Je ne sais pas si Galtier s'est expliqué avec ses joueurs hier soir.
Ouais, est-ce qu'il faut les engueuler ou est-ce qu'il passe à autre chose en disant on laisse ça derrière les gars et...
Mais tu ne peux pas laisser ça derrière. Il faut travailler là-dessus justement pour essayer de progresser quand même, non ?
Ça va être simple. Hein. Ça va être simple. Il passe le match, regardez.
Voilà, voilà, voilà.
Là, telle occasion. J'ai des images d'une touche trop longue. Bourgarit récupère le ballon. Il tape à suivre. Il perd le ballon. Souviens-toi quand Baptiste Couillou est devant ses 22 mètres. Hein, ça tangue un peu. Il veut dégager. Finalement, il écarte et on prend une pénalité contre nous. On a joué à l'envers.
Alors, le prochain match, jeudi prochain, c'est Marseille. C'est la Namibie, a priori l'équipe la plus faible du groupe. Avant de remonter de 2 ou 3 niveaux face à l'Italie pour le dernier match qu'il faudra gagner. Hein, si on a l'équipe de France hier soir, ce ne sera pas facile de gagner contre l'Italie. L'Italie qui affrontera l'Uruguay avant cela. Donc, la Namibie, évidemment, là, ça devrait y aller. Je crois que face à la Namibie, on a réalisé notre plus large score dans l'histoire. Hein, c'était 77 points, je crois.
2007, c'est ça.
Voilà, en 2007.
En Coupe du Monde, le plus large succès. Ouais.
Avec Sébastien Chabat.
Oui, qui traverse le terrain. Ouais, Vincent Moscato qui fusait. Chabat.
Alors, quelle équipe alignée ? Est-ce qu'on va encore faire confiance à cette équipe qui n'a pas justement su rendre la confiance donnée par Galtier ? Est-ce qu'on va à nouveau faire revenir les tauliers ? Est-ce que Danti va jouer ? Est-ce que Jelonche va à nouveau jouer ?
Il joue Danti là maintenant. Il n'a pas encore joué, donc il va falloir panacher un petit peu. Il faut savoir que après la Namibie, il y a 2 semaines avant l'Italie. Donc, les cadres qu'on a alignés contre la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, si on n'en met aucun encore la semaine prochaine,
ils vont être en perte de rythme.
4 semaines entre Nouvelle-Zélande et Italie. Bon, alors, on n'est pas spécialiste de la préparation physique et peut-être qu'ils préfèrent les faire travailler physiquement comme ça et les mettre comme ça contre l'Italie, mais bah, peut-être que des petites touches, des gens sur le banc, des choses comme ça, il faudra peut-être un petit peu panacher parce que moi ça me semble beaucoup 4 semaines sans match. Ou alors ils estiment qu'après ils enchaînent, hein, Italie, quart, demi, finale, c'est ce qu'il faudra voir. Mais voilà, il pourrait y avoir quelques retours sur le banc, il y en a qui vont enquiller encore, il y a le risque de la blessure aussi, mais bon, à un moment il faut y aller aussi. Donc on suivra ça sur la composition d'équipe lors des entraînements de l'équipe de France, qui ne joue pas cache-cache généralement l'équipe de France, et on sait assez rapidement quelle équipe est alignée.
En tout cas, la deuxième semaine de Coupe du Monde va être un peu plus tendue que la première. Après la victoire face aux Blacks, tout le monde avait le sourire, tout le monde était heureux, on était champion du monde. Bah non, c'est un long chemin avant de décrocher cette Coupe. William Webelis, merci Monsieur Templier, vous avez été parti comme d'habitude, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Entre les Poteaux.
Comme
on va parler de tous les autres matchs, notamment la Nouvelle-Zélande qui joue ce soir. À demain, Entre les Poteaux, c'est tous les jours pendant la Coupe du Monde.